Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui ? Hey, êtes-vous prêt pour un nouvel épisode captivant ? Avant cela, je suis ravi de vous annoncer le partenariat avec Gobayava, expert de la mobilité internationale et de l'assurance voyage. À tous les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouvelles destinations, Gobayava est là pour vous proposer les meilleures assurances voyage. Je les remercie de m'accompagner pour cette nouvelle saison et je vous retrouve à la fin de l'épisode pour un petit cadeau. Maintenant, place à l'épisode. Salut Léo, comment vas-tu ?
Salut Jérémy, ça va super.
Ouais, je suis ravi de te rencontrer en tout cas. Depuis le temps qu'on discute un petit peu, tu te définis comme explorateur artiste.
Exactement.
Ouais, ouais voilà. Donc, je pose le thème pour cet épisode. Je pense qu'on va, je vais adorer ça. Et écoute, on démarre tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Léo ?
Ouais, bah, du coup, je suis Léo Joly. Je suis explorateur artiste. Donc, en gros, je crée des expéditions à travers le monde pour reconnecter les gens à leur créativité, en utilisant un moyen de communication un peu spécifique qui est un moyen artistique, donc par la peinture essentiellement. C'est un moyen que j'ai développé à travers 7 ans d'expédition, au fur et à mesure où finalement je voyais que les gens étaient vachement sensibles à ce moyen universel de communiquer, parce que souvent je pouvais pas communiquer par langage dans des communautés isolées au Groenland ou dans le désert en Bolivie. Et donc c'était un langage qui fonctionnait vachement bien, les gens commencent à rigoler, et avoir une sorte de connexion vraiment à l'intime, au fond de soi. Quoi.
Génial. Qu'est-ce que tu as fait avant de commencer ce côté explorateur ? Quel était ton quotidien ? Tu étais déjà dans l'art ? Tu connaissais déjà la peinture ? Ou tu as appris vraiment ? Tu t'es dit, tiens, je vais faire des explorations, mais je vais ajouter de l'art.
Alors, c'est venu petit à petit. Hein. J'aime beaucoup les défis, en fait, et j'étais toujours à cœur de me défier sur plein de sujets différents, notamment sur le regard de l'autre. Et le fait d'être soi, de se proclamer un peu, d'imaginer sa lumière en fait. Et en fait, tout a commencé un peu en Erasmus à Copenhague, où j'étudiais l'architecture du paysage. Et là, j'ai commencé en fait à me réconcilier moi-même avec ma créativité, que j'avais perdue parce que mon frère dessinait bien mieux que moi. Et quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être 10 ans, je me suis dit, ok, laisse tomber, c'est pas pour moi. La peinture, la création.
Alors que 10 ans, c'est jeune quand même.
Voilà, c'est super jeune, mais j'étais là, non. Il y a l'effet de comparaison, en fait, quand on est adulte et enfant qui prime, quoi. Et j'ai dû reprendre l'art en général parce que je voulais devenir architecte paysagiste et que l'école demandait un niveau en dessin assez fort. Et c'est là où je me suis redécouvert en fait. Je me suis dit waouh, en fait c'est trop cool. C'est là où je me sens vachement heureux de quand je crée en fait, quand je crée quelque chose. Et donc je fais pas mal de défis à Copenhague où j'ai inventé ma propre manière de dessiner. J'étais dans la rue au milieu de tout le monde en fait en train de dessiner. Et je me suis dit vas-y. Je dessine juste dans la rue, on verra bien. J'ai l'air peut-être d'un clochard et moi, ça me faisait un petit peu peur de me retrouver dans la rue comme ça, de savoir ce que les gens pensaient de moi. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui venaient me voir, on échangeait sur la peinture, on me demandait des conseils, s'asseyaient à côté de moi pour dessiner. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, waouh, en fait, l'art, c'est tellement puissant. Et j'en ai fait un business, en fait. Il y avait tellement de personnes qui étaient autour de moi dans la rue. Après, j'allais à l'université imprimer des prints des dessins que je faisais et que je vendais dans la rue. Et je devais me faire peut-être 200 euros par jour ou choses comme ça, juste de
vendre des dessins. Ouais. Sacré business. Comment est venu le côté exploration ?
En fait, au fur et à mesure, j'étais vraiment super intéressé par l'exploration des différentes cultures. Je lisais beaucoup de livres sur la géographie et j'étais passionné de jeux vidéo, notamment Age of Empires 3. Pour ceux qui connaissent.
Oui, oui.
Du coup, le but, c'était qu'en fait, moi, j'étais pas tellement passionné par la stratégie pure qu'il y avait dedans, mais par le fait d'aller dans différents environnements, différents paysages, pour voyager d'une culture à l'autre. Et un jour, je me suis dit, écoute, Léo, arrête de jouer, et peut-être que tu pourrais devenir le personnage que tu as toujours joué, en fait. Cet explorateur qui part en Amérique, qui part en Inde, qui part en Afrique, tout ça, quoi. Et c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à... Je me suis dit, en fait, je pourrais devenir ce personnage-là. C'était assez marrant à s'imaginer créer un nouveau monde, des nouvelles règles. Et tout est parti dans le désert en Bolivie, où j'ai vécu, du coup, avec les populations ancestrales Aymara, en 2016, et là, c'était un énorme coup de cœur.
C'est ta première exploration, ça?
Ouais, c'était ma première exploration, qui était en plus totalement imprévue. J'avais juste pris une petite caméra, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Et finalement, j'en ai fait un reportage, et il y a une photo qui a été publiée dans Géomagazine. Mais c'est vraiment, à la base, j'étais juste arrivé juste en disant, bah, je ne sais pas trop ce que je vais faire là. On verra bien, quoi. Et puis, je travaille dans un restaurant gastronomique, et le restaurant connaissait des communautés qui étaient producteurs de quinoa. Et ils m'ont invité, du coup, à me dire, bah, si tu veux, on peut te mettre en relation avec ces communautés-là et tu peux vivre avec eux, quoi. Mmh. Et en partant, après 2 mois de vécu avec eux, je me suis dit, je me rappelle très bien, il y avait un coucher de soleil qui arrivait. C'était le dernier soir où je restais dans le village. Et je me rappelle m'être dit, en fait, j'ai envie d'être explorateur toute ma vie, en fait, de pouvoir vivre la diversité, de voir des paysages tout le temps différents. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer, en gros. Voilà.
Tu as déjà 5 belles expéditions à ton palmarès. Donc, tu as cité la première que tu avais faite en Bolivie, je reprends mes notes. Tu marches beaucoup, tu avais marché 1300 km dans les Balkans, seul, et c'était pareil pour rencontrer des personnes, communiquer avec de la peinture, tout ça. Tu avais déjà ce côté artistique dans ton côté exploration?
Pas trop, ça je l'avais pas encore expérimenté.
D'accord.
Je pense que j'étais toujours en recherche. En fait, je pense que les expéditions que j'ai faites avant étaient plus pour me rechercher, pour me prouver que j'étais capable d'être seul dans la nature, de pouvoir vivre ailleurs, d'être moi, en fait, et d'absorber le jugement des autres. Je pense que c'était une recherche de mon identité. Avant la Bolivie, j'ai fait l'Inde, mais qui était un peu un premier pas, parce que je voulais montrer que l'art était un moyen de rémunérer une cause, en fait, qui était l'agriculture biologique.
D'accord.
Bon, ça n'a pas du tout marché.
Après, mais du coup, c'était le message était là.
Ouais, le message était là. La Bolivie, là, c'était mon premier, là, c'était un déclencheur. Ensuite, les Balkans, c'était plus sur le fait d'aller rencontrer la vraie nature sauvage, avec les ours, les loups, la dureté aussi de la vie, parce que c'était que des territoires qui sont marqués par la guerre. Les Balkans, du coup, avec l'Albanie, Monténégro, Bosnie et Croatie. Il y a encore des mines antipersonnelles. Donc, c'était vraiment pour me confronter, en fait, à la difficulté de la vie, en fait, la vraie difficulté. Parce que les gens, en fait, ils sont... même si la guerre est finie, il y a quand même des tensions super importantes qui reviennent. Et on voit que moi, j'ai vu qu'ils étaient super marqués, en fait, par tout ce qui se passait. Voilà.
Bah écoute, c'est déjà une très belle intro. Hein. Tu as déjà pas mal d'arc... tu as pas mal de cordes à ton arc. Et... aujourd'hui, on va partir, donc si vous avez écouté un peu les épisodes précédents, on a parlé de la Bolivie avec Gaëtan et Lise, on a parlé de rencontres avec des cultures un peu ancestrales avec Jérémy sur le tour de la mer Baltique, qui est un super épisode. On a parlé un peu de l'Inde avec Florence dans l'épisode juste avant. Donc là, avec toi Léo, on va faire un peu un mix de tout ça. C'est pas fait exprès, mais c'est juste génial. Et l'objectif, donc là, revenir sur ta dernière expédition que tu as faite en mars de cette année. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu?
Ouais, cette expédition, c'est la... En fait, pendant 7 ans, j'ai quasiment rien documenté. J'ai juste pris des photos pour moi, des vidéos pour moi. Mais j'avais pas forcément l'objectif d'en faire des livres, d'en faire des films. Je pense que voilà, c'était plus une recherche à l'intérieur. Et cette première expédition, elle est un peu marquante pour moi, parce que c'est la première fois où je me dis, en fait, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu, en fait, ce que je vais vivre. Et ça part d'un énorme défi l'année dernière, où je me dis, en fait, j'ai envie, j'étais assis sur un canapé, et je me dis, j'ai envie de faire un film qui montre une expédition, et j'ai envie de faire ma première expédition de A à Z, en travaillant sur le financement, en travaillant sur la médiatisation, en travaillant sur la logistique, en fait, tout, voilà. Et en fait, quand je suis parti du désert en 2016, quand j'ai quitté les communautés Aymara, je m'étais toujours dit que j'allais revenir avec un énorme projet pour les aider. Parce que eux, ils m'avaient vraiment donné plein d'amour, de générosité, de partage. Et j'étais tellement ému, en fait. Mais je m'étais dit, OK, comment moi je peux, en tant qu'explorateur, artiste, comment moi je peux les aider, en fait, en gros? Avec quel projet je peux venir et les aider? Et en fait, ce projet, il est né vraiment d'une idée en train de se dire, en fait, la meilleure chose, en fait, pour aider quelqu'un, c'est de l'émerveiller. Parce qu'en fait, je crois que quand on cesse de s'émerveiller, on cesse de croire dans la vie. Et c'est exactement ce qui se passe dans le désert en Bolivie, parce qu'ils sont confrontés en premier par le réchauffement climatique. Et en fait, le réchauffement climatique, je me suis aperçu qu'il détruit pas seulement en fait les ces écosystèmes, mais surtout les rêves des populations qui y habitent. Parce que du coup, ils peuvent plus se projeter sur le fut dans le futur. Et s'ils peuvent plus faire ça, ils ont du mal aussi à se projeter dans le présent. Et donc, je me suis dit, OK, mais en fait, ce que je vais aller faire, c'est je vais aller marcher 900 km dans le désert, aller de village en village pour aller leur poser la question sur, en fait, pour eux, c'est quoi leur rêve pour le futur? Est-ce qu'ils ont quelque chose, en fait, qui les anime, qui leur donne une énergie de vie, où ils se lèvent chaque matin en disant, waouh, j'ai trop envie de faire ça? Ou est-ce que plutôt, ils sont plutôt centrés sur leur quotidien qui est difficile? Trouver de l'eau, à manger, à gagner leur vie comme ils peuvent. Et voilà, je m'étais vachement demandé sur, ok, est-ce que ça existe un rêve un peu universel? Et donc voilà, j'ai un peu eu ce projet fou de dire, bah, en fait, j'ai jamais fait de la vidéo, j'ai jamais fait d'expédition de A à Z sur toute la partie logistique et monétisation et financement, mais j'ai envie de me lancer dans ça et voilà, je suis parti un peu dans ce projet-là.
C'est un gros challenge quand même, mais du moins la partie exploration et rencontre, ça s'est très bien passé. T'es parti pendant 3 mois, donc 900 km, hein, c'est bien ce que tu disais. Comment ça s'organise tout ça? Est-ce que tu avais déjà prévu les villages dans lesquels tu allais aller? Comment ça se passe?
Non, moi je suis plutôt assez naïf. Hein. Moi, en fait, je me suis aperçu que c'est un énorme avantage d'être naïf, parce qu'en fait, on s'aperçoit pas de la difficulté de de ce que ça va être le long. Donc, en fait, non, j'imaginais que ce serait très facile, que j'allais y arriver facilement, et en fait, non. Et donc, les 900 km, ouais, ils ont été. En fait, ça s'est fait assez rapidement. En fait, je me suis dit, ok, comment est-ce que déjà c'est possible de faire 900 km? Donc, j'ai repéré tous les villages qui étaient autour du désert de Sahel d'Uyuni, qui est du coup le plus grand désert de sel du monde. Et je me suis aperçu en fait que tous les villages qui étaient présents autour du désert, ils étaient à peu près à entre 20 et 40 km de distance. Et donc je me suis dit, ok, c'est possible en fait de les relier pas à pied, en apportant plus d'eau, voilà. Mais en tout cas, c'est possible de faire le tour. Et en fait, tout est parti de là en me disant, ok, maintenant, j'ai à peu près, voilà, j'ai 3 mois de libre pour le visa. Et donc, je sais plus exactement comment j'avais calculé, mais je crois que pour 900 km, j'avais calculé que c'était à peu près 2 mois de marche intensive. Et donc, il me restait un mois où je pouvais m'arrêter, faire des interviews, prolonger mon séjour de 3, 4 jours dans une communauté si jamais il y avait quelque chose de flash, tu vois. Mais après, ce qui est important, c'est qu'en fait, partir dans ce genre de projet, c'est vraiment se mettre à nu, complet. D'être vulnérable, mais totalement, quoi. Parce qu'en fait, je ne savais pas ni où j'allais dormir, ni ce que j'allais manger, ni qui j'allais rencontrer. Si mon projet des rêves allait fonctionner, peut-être que les gens allaient me dire, mais en fait, moi, j'ai pas de rêve, point. Et donc, il y avait toutes ces incertitudes qu'avec quel qui je devais faire quelque chose, quoi.
Génial. Tu vois, t'as soulevé toi-même toutes ces questions-là. On va commencer toujours sur le côté logistique, mais comment, quand tu arrives dans un village comme ça où tu connais personne, ou une communauté complètement différente de la nôtre, comment tu arrives à te faire comprendre, d'expliquer un peu que tu es là pour leur faire dessiner leurs rêves, comment tu demandes l'hospitalité, comment ça s'est passé tout ça quel est le souvenir que tu gardes?
Bah c'est une bonne question. Je pense que l'arrivée dans les communautés, c'est toujours quelque chose d'un peu spécial. Mais après, en vrai, les gens sont tellement intrigués de voir quelqu'un qui débarque à pied. En fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'en fait, quand on arrive en voiture dans un lieu, en fait, on n'a fait aucun effort quasiment. Quand on arrive à pied dans un lieu, là, c'est totalement différent parce qu'en fait, on a utilisé son énergie pour y aller. On a vu, en fait, tous les paysages, toute la culture en marchant, dans la lenteur. Et en fait, du coup, il y a une sorte de respect chez les gens parce qu'ils se disent, moi, je fais pas ça. Ou alors, moi, je fais pareil que toi, je marche aussi pour aller élever des lamas, par exemple. Et donc, il y a un lien qui se crée automatiquement. Et le fait de se dire que j'allais faire un film et que je leur demandais des rêves et de leur dire ensuite que, en fait, j'allais au prochain village et que j'avais déjà fait tout ça à pied, les gens étaient genre, mais what the fuck, tu vois, c'est pas possible que ça arrive. Et les gens étaient en fait presque émerveillés qu'il y ait quelqu'un qui
Qui
ose
les écoute?
marcher, qui ose marcher et qui les écoute en fait, de se dire, ok, en fait, c'est quoi ton rêve? Donc on faisait des micro-interviews. Ce qui est assez marrant, c'est que ce qu'il faut dire en fait, c'est que moi je comprenais rien de ce qu'il disait.
C'était quoi? C'est de l'espagnol ou pas du
C'est
tout?
l'espagnol, il y avait l'aïmara, du quechua, Mais vu que je parlais pas espagnol, même si bah, j'avais fait mon projet de partir dans le désert, mais voilà, je parlais pas espagnol. D'ailleurs, les vidéastes qui m'accompagnaient parlaient pas non plus anglais, donc on se comprenait pas non plus. Mais et en fait, ce qui se passait, c'est que je comprenais les questions que je posais, parce que j'arrêtais pas de les répéter, donc j'avais un peu l'accent, donc eux, ils les comprenaient aussi. Mais par contre, les réponses que eux apportaient à la caméra, je les comprenais pas trop, tu vois. Donc des fois, en fait, il y avait des quiproquos qui étaient réalisés. Et en fait, j'essaie de les relancer sur des questions clés quand j'entendais un mot clé ou choses comme ça. Mais j'étais pas sûr à 100% en fait de ce que j'avais entendu. Et moi, c'est ce qui m'amusait aussi en fait de dire qu'en fait, ne pas comprendre, c'est super marrant aussi. Y a un côté où c'est un peu un jeu d'enfant, tu vois. Je sais pas ce qu'il dit, mais je vais essayer de deviner.
Ah, c'est ouf. C'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Est-ce que c'est quand tu connais pas ça, quand tu te lances pour le premier village, là, tu fais tes premiers kilomètres à pied, est-ce que tu n'as pas cette peur du rejet, que ça ne matche pas, qu'il n'y a pas de connexion, tu vois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as des peurs qui arrivent?
Ouais, mais ben, clairement, j'avais écrit dans mon journal, juste avant de partir, la veille de partir, qu'en fait, je ne sais pas si j'allais être rejeté ou accueilli, en fait, dans ces communautés. Ça dépend vraiment des chefs de village, ça dépend en fait de ce qu'ils perçoivent, vu que je suis considéré blanc aussi. Malheureusement, voilà, c'est une force et aussi un désavantage, parce que je fais pas partie de leur communauté. En fait, ils pourraient très bien me rejeter en disant non, en fait, tu fais pas partie de notre coutume, dégage. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Je sais pas si c'est grâce à un peu mes qualités humaines, je sais pas, ou le fait que j'arrive avec une grosse ouverture d'esprit. Le fait de dire, je pense que j'arrive avec beaucoup de respect. Et j'arrive aussi avec l'idée de se dire que c'est pas tant, en fait, j'ai pas envie de vivre des expériences incroyables avec eux. C'est plus le fait de se dire, j'ai envie de vivre leur vie. Si jamais ils veulent aller travailler le quinoa, je vais demander s'ils veulent de l'aide, en fait, s'ils veulent venir.
C'est une immersion dans leur vie quotidienne.
Exactement, ouais, s'ils cuisinent, je vais cuisiner avec eux, en fait. Et eux, ils sont super étonnants parce que je me rappelle une fois, j'ai fait la cuisine. Pour tout le il y avait un peu un micro-restaurant dans un village et ils m'ont donné à manger gratuitement et en échange, je leur ai fait toute la vaisselle du restaurant. Toute la famille était là en train de me prendre des photos en disant mais qui c'est ce gars qui marche et qui vient nous faire la vaisselle, quoi. Ils n'avaient jamais vu, en plus, voilà, c'est un peu macho aussi, ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui faisait la vaisselle. Moi, ça me faisait rigoler parce que du coup, et c'est comme ça qu'on crée le dialogue, en fait, c'est de parler rire. Et moi, à chaque fois que j'arrive dans une communauté, je rigole, en fait. On communique par le sourire.
Ah, mais je vois parfaitement. Et alors, pour lier cette communication avec la peinture, comment ça s'est passé? Comment t'as abordé le sujet de leur demander de dessiner leurs rêves? Comment ça se passe?
Bah, concrètement, dans un village, j'arrive, je traverse le village, je rencontre des gens, je leur demande s'ils connaissent des gens pour m'héberger, ou s'il y a une petite, si je peux payer des gens pour m'héberger. Il y en a qui connaissent un peu des lieux, qui ont une chambre en plus, voilà. Et si jamais ils peuvent pas, s'il y a personne, je leur demande s'ils connaissent des gens pour auxquels je peux acheter de la à manger. Parce que moi, c'était une grosse difficulté, ça. Et une fois que je connais un peu un groupe de personnes, on commence un petit peu à discuter. Je leur demande après, je connais si une personne qui m'intéresse plus, par exemple, par rapport à un trait de caractère, je leur demande si je peux faire une micro-interview de quelques secondes. Et en fait, il y a une question qui revient souvent, c'est en gros, ce que je pose, c'est est-ce que tu as un rêve ou un projet que tu voudrais réaliser qui peut être impossible, qui peut être très difficile à réaliser, mais que tu sens au fond de toi que tu as l'envie, en fait. Et souvent, la personne me dit est-ce que tu veux que je te parle d'un projet impossible à réaliser? Ou est-ce que tu veux que je te parle l'impossible d'un projet que je peux réaliser?
Ah oui, ils te répondent ça.
Et souvent, moi, je fonce sur le projet impossible.
Oui.
Qui m'intéresse le plus. Et donc, on fait l'interview, voilà. Et ensuite.
Cette interview en espagnol toujours?
Ouais, en espagnol. Ouais.
Ok.
Une interview, voilà, que je comprends en moitié. Mais ce qui nous crée des liens aussi, vachement fort. Parce qu'en fait, moi, je commence toujours en leur disant que, en fait, moi, c'est mon rêve d'être là. D'être avec eux, de discuter avec eux, là, d'avoir fait ce projet que je pensais pas pouvoir y arriver, niveau financement, niveau médiatique. Enfin, voilà. Et en fait, ça les touche vachement parce qu'en fait, de se dire qu'en fait, que c'est mon rêve d'être avec eux, c'est incroyable. C'est un peu comme si quelqu'un te disait, en fait, wow, c'est mon rêve d'être avec toi, tu vois, c'est, wow, c'est puissant. Et en plus, c'est vraiment vrai, tu vois. Et ensuite, une fois qu'ils m'ont raconté leur rêve, je leur demande toujours, ok, maintenant, est-ce que tu voudrais le peindre sur une feuille de papier? J'ai apporté de l'aquarelle. Si t'as jamais peint, je peux t'aider. Et en vrai, les gens au début, ils hésitent un petit peu et après, c'est un lâcher-prise total. Et ce qui est vachement intéressant, c'est quand on a un projet pour le futur, souvent le projet, il reste un projet dans la tête. Il n'est pas matérialisé en quelque chose. Il n'est pas écrit, il n'est pas dessiné. Mmh. Et le fait de le dessiner, il y a un côté où en fait l'imagination devient concrète.
Il y a un petit engagement.
Il y a un engagement concret. Ouais. Ouais. Et en fait, parce qu'en fait, par exemple, si tu veux je sais pas, une maison ou un hôtel, mais en fait, tu dois deviner, tu dois dessiner en fait, c'est quoi l'hôtel ? Est-ce que quelle forme il a ?
Comment tu le verrais ?
Quelle couleur il a ?
Ah oui.
Est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est du béton ? Est-ce que c'est un matériau traditionnel avec de la terre ? Est-ce que autour de cet hôtel, est-ce que tu veux des arbres partout ? Est-ce que tu veux le désert ? Est-ce que voilà ? Et ça demande une réflexion beaucoup plus intense où tu montes vraiment dans le matériel et dire ok, c'est quoi vraiment en fait ? Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, tu vois les yeux des gens commencer à briller. Parce que non seulement ils ont la couleur devant eux, parce qu'ils ont souvent jamais peint, et en plus ils ont le côté genre de leur rêve qui se dit waouh, peut-être en fait il commence à devenir vrai ce rêve-là.
Ouais.
Il devient réel.
C'est au fait. Ah oui, donc est-ce que tu as des exemples comme ça de ce dessin qu'ont fait ces personnes-là de rêves impossibles qu'ils ont réussi à dessiner sur un papier quoi?
Ah ouais, moi j'étais tellement surpris parce qu'au début, voilà, je ne savais pas si les gens allaient vraiment connaître ce que c'est un rêve pour le futur. La majorité en France ne sait pas d'ailleurs. Et en vrai, j'étais tellement surpris. Les gens là-bas, dans le désert, ont des rêves, mais tellement précis et tellement ouf des fois. Par exemple, j'étais en train de marcher tout seul dans le désert, sur une voie ferrée qui était à l'infini, et je vois le coucher de soleil qui commence à arriver. Et je me dis, bon là, c'est le moment de monter ma tente, tu vois. Et au moment où je dis ça, je vois quelqu'un qui arrive dans l'obscurité vers moi, en courant. Un mec comme ça. Et il monte sur la voie ferrée qui est un peu rehaussée. Il s'approche de moi, il me tend la main, il me fait « T'es le bienvenu chez moi. » En espagnol, tu vois. Et j'étais là, mais what, what? Déjà, ça m'a fait peur de le voir courir vers moi. Et de se dire, waouh, il m'invite chez lui, mais je sais même pas où c'est, tu vois. C'est, je suis au milieu du désert, d'où est-ce qu'il vient? Et je sais pas pourquoi, je dis « Ok, tu vois. » Je dis « Oui. » Et donc, il m'amène avec lui, on traverse le désert ensemble.
Vous avez marché beaucoup, parce que s'il faisait...
Ouais, c'est ça, et on a marché peut-être 30-40 minutes dans le noir, entre les buissons. Et il était du coup avec son troupeau de chèvres. Au loin, je voyais des personnes qui étaient avec lui. Et à un moment, on arrive dans sa ferme, qui était une petite maison, vraiment au milieu de nulle part. Et il me dit, là, toi, tu vas dormir là ce soir avec nous. Dans la même maison, dans peut-être un 15 mètres carrés, tu vois. Et j'étais un peu gêné, mais c'était trop cool, tu vois, c'était incroyable de la générosité de dire waouh, je veux venir avec eux. Et là, je rencontre Margherita le lama, qui est un lama domestiqué, et qui, elle, ne répond pas du tout aux ordres. Dès que tu lui donnes une ordre, elle te regarde, genre, elle est prête à te cracher dessus. Et à côté de ça, t'avais un corail de 150 lamas, ils avaient des moutons, des bébés chiens, des chèvres, des... Moi, c'était genre, waouh, l'oasis dans le désert, tu vois. Je venais de marcher plein temps dans le désert, et là, c'était genre, waouh, où est ce lieu, quoi? Et donc, donc il m'accueille dans sa ferme. Et le lendemain, du coup, je fais un peu le procédé habituel où je lui demande son rêve. Et il commence à me raconter un peu sa vie, que c'est un ancien médecin qui vivait dans la capitale et qui a tout abandonné pour venir vivre avec sa femme qu'il a rencontrée dans le désert un jour. Et il me fait, Léo, tu vois, ici, moi, les gens cherchent beaucoup l'argent, le plus, tout ça. Et regarde, moi, je suis entouré d'animaux, de vie. Je suis vachement heureux ici. Et on a eu des discussions tellement philosophiques sur tous les aspects de la vie que je pouvais pas imaginer, en fait, dans le désert. Mmh. Et il y a un moment, du coup, je lui pose la question sur le rêve. Il me fait, écoute, la meilleure façon de te répondre à cette question, c'est que je te montre directement. Et donc, il m'amène dans son terrain. Et là, il me fait, écoute, là, c'est une rivière sèche qui est en eau la moitié de l'année et l'autre moitié de l'année, ben, elle est sèche. Et je me rends compte, en fait, que c'était de plus en plus difficile pour moi d'amener mes troupeaux de lamas, mes chèvres, parce que pour trouver des pâturages, chercher de l'eau. Et en fait, j'ai envie de changer l'écosystème du désert. J'ai envie que le désert devienne une immense oasis avec plein d'eau. Et donc, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je veux planter une forêt autour de cette rivière sèche. pour que la forêt finalement humidifie l'air autour de nous, que cet air apporte plus de pluie, que la pluie apporte plus d'eau, plus de forêt, et ainsi de suite. Que ça fasse une sorte de cercle. Et il me fait, bah, viens voir, je vais te montrer. Et donc là, il me montre toutes les espèces d'arbres qu'il a déjà plantées dans son terrain pour les tester, pour savoir quelles espèces résistent à ce désert. Il y en a qui sont déjà morts, mais d'autres qui y résistent. Il me fait, là, voilà, Léo, là, je suis sûr que moi, avant que je meure, je veux voir une forêt ici.
Tu savais quel âge il avait à peu près
cette là, 60 ans à peu près.
Hein. Okay.
Et moi, j'étais genre, waouh. Waouh, waouh, waouh.
Il n'a pas eu besoin de dessiner. Il t'a posé son rêve sur le paysage.
Ah, il l'a dessiné, mais j'étais genre. J'étais tellement. J'étais émerveillé, en fait. C'était tellement beau de se dire qu'en fait, t'avais quelqu'un qui. Dans le désert, qui n'a rien, mais en fait, qui a tout. Qui a tout dans sa tête, en fait. Et qui s'autorise les choses les plus grandes de changer l'écosystème complet. Ah, c'est quelque chose en France qu'on pourrait même pas imaginer, tu vois. Et là-bas, dans le désert. Avec ses petits bras, il est déjà en train de faire ça, quoi. Et je me dis, waouh!
C'est génial. L'anecdote, elle est incroyable. En tout cas, c'est. J'avoue, tu dois rester bouche bée quand il t'annonce ça. Et pareil, sur l'ensemble de ton expédition, avec. Tu sais à peu près combien de dessins, de rêves tu as fait dessiner par ces personnes que tu as rencontrées?
Ouais. Bah, du coup, là, on a eu. J'étais assez content parce qu'en fait, je suis parti vraiment un peu dans le hasard complet. Pas vraiment préparé, d'ailleurs. Et j'aime bien dire qu'en fait l'expédition c'était un peu une blague hein, parce que tout était nouveau en fait pour moi. Et en fait, j'étais assez content du résultat parce qu'on a fait quand même 50 interviews de plein de personnes différentes avec plein de rêves différents. Et au total, on a fait dessiner 150 rêves.
Ah oui.
Parce qu'on a été dans 5 écoles différentes dans le désert. Et c'était incroyable de rencontrer les enfants. De parler justement du fait de pouvoir doser, de pouvoir d'imaginer. Et c'était beau de voir les yeux des enfants dessiner leurs rêves aussi, de se dire moi je veux devenir ça, moi je veux faire ça. T'avais des enfants qui voulaient devenir par exemple doubleur de dessin animé. Et c'était incroyable.
Comment ils ont l'idée d'être doubleur de dessin animé, c'est ouf.
Et t'as une autre personne qui voulait devenir peintre, et là je leur disais mais écoute. Moi, je t'accorde une heure, tu vois, on va faire de la peinture ensemble. Je vais te montrer un peu mes techniques que j'ai et je vais t'aider, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu, en fait, qu'au fur et à mesure de la marche, en fait, c'était vraiment un moyen de se dire, OK, je rencontre des gens, ils m'apportent tellement de choses, c'est un peu comme la vie. Et ensuite, la marche dans le désert est plutôt éprouvante, c'est un peu comme la mort, tu vois, il y a un peu un côté où tu peux tout abandonner dans la vie. Mmh. T'as les moments difficiles, les moments de haut, bas, tu vois. Et en fait, je m'apercevais qu'en fait, un rêve, la réalisation d'un rêve, déjà, il n'y a pas forcément besoin de réaliser son rêve, c'est juste une direction. Et ensuite, ça tient souvent à un seul contact, en fait. Il suffit juste que quelqu'un ait ce contact-là, et pouf, la fleur éclot, en fait.
Mmh. Ah, c'est ouf. Et durant cette expédition, est-ce que tu as eu, toi, l'envie d'abandonner un moment? Est-ce que tu as eu un gros coup de, je sais pas... un problème technique ou quelque chose qui t'a presque donné envie d'abandonner?
Avant de partir, j'ai failli abandonner 3 fois. Parce que j'avais pas de financement.
Ouais. D'accord. Ah oui, pour le financement.
Ouais. Okay. Un mois avant de partir, j'avais aucun financement. Donc, je pouvais ni payer les caméramans, ni me payer moi-même. Enfin, je pouvais vraiment rien faire. Et je me suis dit, OK, est-ce que c'est pas un signe du destin qui fait que je dois pas partir? Et en fait, bon, le signe s'est révélé positif parce qu'après, j'ai reçu plein de financements. Juste avant de partir.
D'accord.
et ensuite, quand j'ai marché, il y avait 3 vidéastes dans le projet parce qu'en fait, le premier vidéaste, il a une blessure au pied, donc il a abandonné au bout de 9 jours. Et donc, j'ai dû continuer tout seul après. Le deuxième vidéaste, Lucas, qui venait de France, du coup, qui était le personnage principal, le vidéaste principal du projet, il devait rester un mois, mais il a eu un accident dans le désert, il est tombé sur la tête. Et donc, 10 heures d'ambulance au milieu du désert, pour faire des radios, parce que je pensais vraiment que c'était super grave. C'était horrible à voir. Ils disent qu'il est tombé, et il a fait un énorme malaise, il est tombé dans les pommes, avec les yeux révulsés, la bave qui sortait de la bouche. Oh. Enfin, horrible, quoi, vraiment horrible à voir. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dû revenir une semaine à La Paz pour l'accompagner, faire toutes les analyses, et je m'étais posé la question, est-ce que je dois revenir dans le désert après ces 2 incidents? Et finalement, j'ai décidé de reprendre un nouveau caméraman. Et de revenir dans le désert pour faire la fin. Bon, là, il s'est rien passé. Même si on aurait pu, c'était un peu difficile la fin aussi. Mais on a été jusqu'au bout et c'était cool parce qu'on a rentré tellement de personnes. En fait, c'était même plus qu'une marche ou demander les rêves. En fait, c'était vraiment de se dire je pars réaliser un rêve, en fait, mon rêve, un peu égocentrique, tu vois. Ce rêve-là, c'est d'aller questionner les rêves d'autres personnes pour leur apporter de la force. Et finalement, de faire un film qui inspire les personnes qui vont le voir à aussi réaliser leurs rêves. Donc en fait, c'est un peu trois miroirs. Le mien, les communautés Aymara et ceux qui vont le voir, le film.
Et tout ça, ce qui lie ces trois miroirs, c'est vraiment le rêve. Et c'est ce que tu veux mettre en avant. Et d'ailleurs, ce film, est-ce qu'il sort bientôt ?
Ouais, exactement. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur le rêve, l'importance du rêve. Et l'objectif, c'est d'inspirer 500 000 personnes, pas forcément à réaliser leurs rêves, mais au moins à être inspirées, à avoir une direction pour partir, découvrir en fait la beauté de la vie, en fait. La beauté de ses peurs, de ses chutes. Je pense qu'on ne peut pas avoir de bonheur sans chute. Mmh. Et je pense que voilà, il faut l'accepter. Et le but, c'est vraiment de se dire qu'en fait, la vie a tellement de choses à offrir qu'en fait, on ne peut pas juste s'arrêter à une vie de confort. Voilà. Du coup, le film, il sort en 2024. Et là, on est en train de chercher une boîte de production pour le produire. Parce qu'en fait, on a tellement d'interviews, d'images de drones, de scènes incroyables que voilà, ça peut être vraiment impacté beaucoup de monde.
Parfait. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait un épisode d'ailleurs qui s'appelle Captain Rémy. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
Ouais, je connais.
Voilà. Et qui lui réalise ses rêves tout le temps. Là, il a une pièce. Il fait des présentations, etc. Et on avait fait un épisode ensemble. C'était fait remarquer quand il avait fait le Paris-Nantes en char à voile. Voilà, on avait fait un épisode ensemble dessus. C'était vraiment super. Et moi, je trouve génial cette idée, voilà, de mettre en avant les rêves, d'écrire les choses. Je reviens sur le fait de dessiner ou écrire. Je sais que c'est quelque chose qui, comme on disait tout à l'heure, c'est une sorte d'engagement. T'en parles, c'est bien. Mais une fois que tu l'as posé sur quelque chose, t'as vraiment l'impression de dire, ah, je me suis quand même un peu engagé, tu vois. Là, j'ai plus le choix, je peux plus reculer, etc., tu vois. Donc, j'adore cette idée-là. Et j'avais une dernière question pour toi, Léo. Je voulais te demander un peu un conseil si quelqu'un voulait réaliser la même expérience que toi, c'est-à-dire partir de zéro et faire une exploration comme ça. Quel est ce conseil que tu donnerais?
Je pense que de vraiment. En fait, je pense qu'il y a une métaphore sur le rêve qui moi m'aide beaucoup. En fait, je pense que le rêve, c'est un peu comme une petite graine qui un jour s'émerge en toi. C'est une petite lumière, tu vois. Tu sais pas trop ce que c'est, les contours sont un peu flous. Mais en fait, cette graine, tu dois un peu l'arroser de considération, d'écoute, et la considérer vraiment comme un truc d'important, pas juste un truc anecdotique à mettre de côté. Te dire, ok, je laisse faire, je suis en total lâcher prise sur ça, je la laisse grandir, en fait. Et à un moment, en fait, il y aura tellement... Cette graine, elle va commencer à grandir jusqu'à devenir une fleur. Et je pense que quand ça devient une fleur, c'est devenu tellement important pour toi, en fait, que tu peux le partager à tout le monde. C'est tellement fort, en fait, que les gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce rêve-là, en fait, c'est trop tard. En fait, tu l'as en toi. Je pense que c'est important aussi, quand on a un rêve, de ne pas le partager à tout le monde, à la base, de le partager juste aux bonnes personnes qui savent écouter, aux personnes de confiance, qui vont pas rejeter le rêve parce qu'en fait c'est leur propre peur, mais juste de l'écouter, en fait, de l'écouter pareil avec bienveillance, considération. Et je pense que le premier pas pour faire ce type de projet que j'ai fait, c'est de trouver de pas le prendre avec sérieux, mais de le prendre avec c'est un jeu, en fait. C'est vraiment un jeu. Moi, j'ai joué, en fait, pendant un an là, j'ai vraiment joué, me dire ok, je vais jouer à chercher des sponsors, je vais jouer à trouver des médias. Mmh. Je vais jouer à recruter des gens que je n'ai jamais recrutés, tu vois. Je vais jouer à faire un film. Et en fait, de changer ce curseur, de pas être dans le sérieux, mais dans le jeu, ça change tout, parce qu'en fait, on s'autorise à rêver, à faire plein de bêtises, à en parler, à dire « j'étais con ». Voilà. Vraiment, c'est super important, ça.
Ok, super conseil. J'ai adoré cette métaphore là, avec cette petite graine et cette fleur, en tout cas. Écoute, Léo, un grand merci. Franchement, ravi de t'avoir rencontré, d'avoir discuté un peu de ces rêves, de cette expédition, de ce que tu te qualifies en tant que aventurier ou explorateur artiste. J'ai adoré. Puis, je ne peux que te souhaiter de plein de nouvelles aventures artistiques à travers le monde.
Merci Jamy.
Allez, très bonne journée à toi, à bientôt.
Merci à toi aussi.
Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et de les inscrire sur ce podcast. N'oubliez pas également de vous abonner, vous serez directement informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et pour me montrer votre soutien, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts suivie d'un petit commentaire. Gobayava est mon partenaire pour cette saison 4 et avec le code promo ODYSSEE, ODY2S2E, bénéficiez d'une réduction de 5% lors de la souscription de votre contrat d'assurance. Enfin, vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur le site ou l'application Allo la Planète, la web radio des voyageurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.